On est déjà mardi soir et c'est à nouveau l'heure de vous faire frissonner. Alors aujourd'hui, toute la fine équipe est là. Enfin presque, on m'assure que Toups va débarquer d'un instant à l'autre. Bonjour les amis, vous allez bien ?
Oh oui, ça va merveilleusement. Oui.
Tout à fait, ça va très bien.
De quoi va-t-on bien pouvoir parler ce soir ? Eh bien tout d'abord d'Elsa Marpeau et de son roman « L'âme du fusil » paru chez Gallimard. Dans la collection La Noire. Luc, à qui tu t'intéresses pour cette toute première fois ?
Ah, la toute première fois d'une femme de Dominique Manotti.
Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Et toi, Lindois ?
Linda,
et toi, Lindois ?
J'ai mis le doigt sur Lindois. Mario Van Peebles.
Oh là. C'est quoi tes surfroids du moment, Mario Van Peebles ?
Oui, acteur et réalisateur.
Nous aurons notre petit intermède questionnaire au fond du saxo. Et puis, nous parlerons du thriller Cure de Kiyoshi Kurosawa qui sort chez Carlotta dans une version remasterisée, en Blu-ray, avec plein de bonus. À la programmation musicale, notre gizmo à nous, Jean-François Micard. Oui, pour cette émission, j'ai envie de l'appeler Gizmo. Il y en a qui l'appellent Chewbacca, moi c'est Gizmo. Vous savez, c'est le nom du méchant avec une crête blanche dans Gremlins.
Désolé.
Non, bah non, cette culture populaire vous échappe. Je me demande ce que je fais avec vous.
Nous aussi.
Pour l'heure, c'est Calibre 58, l'émission qui vous donne envie de vous plonger dans le noir. Et maintenant, générique, maestro.
Radio G 101.5 FM.
Vous écoutiez un morceau choisi par Gizmo qui m'écrit aussi les petits laïus qui suivent, donc moi je n'y connais rien du tout, je dois vous le dire. Le groupe Das Das qui nous interprétait 999. Non, il ne bégait pas. Mais ce jeune duo berlinois a tout retenu des pionniers de l'électropunk de Suicide à DAF et l'adapte avec force aux années 2020. Sur ce, nous allons maintenant passer à notre invitée du jour, Elsa Marpeau, qui publie dans la Noire chez Gallimard, L'âme du fusil, son 8e roman. Alors, comme quoi j'ai bien fait mon boulot, je me suis rendu compte cet après-midi qu'Elsa Marpeau était née à Ancenis.
C'est du local, ça. Écoute,
Oui, le monde est décidément tout petit. Alors, son roman est noir, sec, tendu, écrit sous la forme de la confession et s'inscrit dans la lignée des romans taiseux ruraux. Pourtant, Philippe, son personnage principal, en a des choses à dire. Alors, il déballe tout à un neveu du prénom de Pierre qu'il n'a pas vu depuis 20 ans et qui n'a pas forcément beaucoup plus que 20 ans, ce neveu. Il raconte ainsi sa vie de famille, son amour pour Maud, sa femme, qu'il voit sans trop la voir, son fils qui plonge dans l'adolescence mutique, et ces deux moments de grâce qui reviennent de façon récurrente, celui que la chasse lui procure, et celui que ses amis chasseurs lui offrent quand il s'invite le soir en fin de semaine chez lui. Seulement, il va y avoir un élément pour perturber tout ça. Et je vous le donne en mille, le mec, il vient de Paris et il se prénomme Julien. Toute ressemblance avec ma pomme est fortuite. Alors oui, parce que Julien, il a la beauté insolente du gars qui plonge nu dans un lac, qui conduit...
C'est tout à fait toi.
Oui, tout à fait moi.
Tu m'enlèves de la bouche, hein, franchement. Genre.
Qui conduit une Alfa Romeo, qui triche comme il ment et comme il respire. L'intrigue est vraiment très classique et le drame qui en accouche est tout aussi classique et prévisible. Alors, pourquoi parler de ce roman, me direz-vous ? Eh bien, parce qu'il y a des éléments singuliers qui rendent ce livre attendrissant. Un style efficace, peaufiné avec le temps, des phrases sèches. Le roman est court, je l'ai dit. Il ne prend pas la peine de développer des sous-intrigues. Il y a chez Elsa Marpeau qui concocte ce roman depuis des années, une volonté d'aller au plus près l'humain avec des mots simples pour décrire quelque chose de pas simple, le travail d'une grande romancière. Et franchement, ce truc qui consiste, vous savez, à proposer une intrigue en apparence simple avec un style qui l'épouse, ben ça, c'est pas simple. Je ne dirais jamais qu'il faut lire un roman, mais si on a envie de lire un bon roman, alors pourquoi pas se jeter sur celui-là. L'âme du fusil d'Elsa Marpeau dans La Noire chez Gallimard. Je laisse la parole à Linda pour sa lecture enregistrée d'un extrait. Nous écouterons à la suite Elsa Marpeau qui répond à quelques questions.
Mon père m'a laissé choisir l'arme qui me convenait le mieux. J'en ai épaulé une dizaine, mis en joue, visé plein guidon. Pendant ce temps-là, mon vieux, en me jetant de loin en loin un regard fier, discutait avec le vendeur. J'écoutais d'une oreille distraite. Il parlait, je crois, des armes que peut porter sur soi un particulier pour se défendre. Combien ça coûte un revolver comme ça ? Faisait mon père. 50 prisons, a répondu le gars. Pendant ce temps-là, l'un des fusils m'avait tapé dans l'œil. Et comme mon père me l'avait appris, j'ai vérifié les longueurs de crosse en plaçant la plaque de couche à la saignée de mon bras et en saisissant la première détente avec l'index. À l'épaulée, mon canon devait apparaître sur une hauteur d'un ou deux doigts, ce qui faisait qu'il suffisait de pointer le guidon aux pattes sur un gibier fuyard. Moi, j'ai finalement posé sur la table un Thompson Thunder Hawk Shadow, une carabine à poudre noire ou carabine en ligne à chargement par la bouche, calibre 50 à percussion avec un canon de 24 pouces avec un pad de 1.38, détente ajustable contenant des projectiles de type minier ou balle à sabot. Une arme se chargeant par la bouche. Les mots à l'époque m'avait rempli de frissons délicieux.
So long you run.
Bonjour Elsa Marpeau.
Bonjour Julien.
Ça apporte quoi la confession comme mode de construction d'un roman ?
Ça apporte, j'ai eu l'impression, une sorte de profondeur de champ, parce qu'il y a des années qui séparent le moment où le narrateur Philippe écrit et le moment où le drame s'est passé. Ça permet de mettre le drame à distance, mais ça permet aussi, je trouve, de creuser encore le ce qu'a vécu Philippe de terrible, parce qu'il y a quelque chose dans le moment où il parle aujourd'hui d'une solitude absolument gigantesque, puisque la personne à qui il parle, des années plus tard, c'est quelqu'un dont on comprend au fil du récit qu'au fond, il le connaît très peu.
L'atmosphère de ce roman est très chabrolien et ça détonne un peu de ce que vous avez écrit auparavant. Comment il s'est imposé ce choix qui vous a aussi fait entrer dans la noire ?
Alors, il s'est imposé il y a très longtemps parce que j'avais écrit un premier jet autour de cette histoire-là il y a 20 ans, très exactement, un petit peu plus de 20 ans. Ça s'est imposé juste pour le sujet parce qu'un jour, mon père m'a parlé de chasseurs qui avaient tué des espèces protégées. Et je me suis dit que c'était vraiment un monde que je connaissais pas, alors que pourtant, énormément de gens dans ma famille, je viens d'un milieu rural et dans ma famille, il y a beaucoup de chasseurs. Donc, je me suis dit que c'était le moment d'explorer un petit peu ce monde, ce milieu à la fois lointain et quand même proche, et de prendre le point de vue de l'adversaire, entre guillemets, c'est-à-dire du chasseur.
Qu'est-ce qui devrait nous interpeller dans les petites histoires du quotidien ? Parce que, en fait, si je résume, votre histoire, elle est malheureusement un peu ordinaire, non ?
C'est un drame intimiste, effectivement. Le drame, le premier vraiment le plus puissant pour Philippe, c'est son impossibilité de se verbaliser ce qui lui arrive. Ce qui lui arrive, c'est que, d'une part, il a du mal avec son fils qui est adolescent et à qui il n'arrive plus à parler, à sa femme qui est devenue pour lui une étrangère, et l'élément déclencheur, on peut dire, c'est l'arrivée d'un nouveau voisin qui s'appelle Julien, qui est un jeune parisien et qui voit dans un lac se baigner nu. Au départ, il pense que c'est un animal, lui il est en train de chasser, il pense à une proie, et puis finalement il découvre cet homme pour qui il ressent une sorte d'attrait qui est un attrait évidemment physique, mais que lui ne va pas pouvoir nommer, qu'il ne va pas pouvoir verbaliser. Et le drame, il vient vraiment de cette impossibilité à se raconter à lui-même cette histoire. Et donc, c'est une sorte de ruse de l'inconscient, en gros, comment il va pouvoir vivre cette attirance pour cet homme sans jamais s'y confronter vraiment.
Alors justement, en quoi c'est important pour Philippe de suivre le schéma familial, de répéter les actions qu'a commis son père ou qu'a fait son père ?
Alors pour lui, c'est d'abord il a un amour pour son fils qui est extrêmement fort et qui vit comme absolument pas réciproque, donc son fils de 15 ans qui est absorbé complètement par le monde intérieur de ses écrans, et lui, ce qu'il voudrait transmettre à son fils, enfin la façon dont il voudrait récupérer l'amour de son fils, c'est par la chasse. Parce que la chasse, c'est quelque chose d'extrêmement traditionnel. C'est un roman aussi qui est un roman sur la virilité. Donc, ce que ce père essaie de transmettre à son fils à travers toute cette imagerie, on peut dire, viriliste de la chasse, du fusil, etc. Mais au-delà, il y a quelque chose de plus touchant qui, moi, fait que je me suis attachée à ce personnage vraiment. C'est ce qu'il veut transmettre à son fils, c'est immense. C'est, au-delà de la chasse, c'est l'amour de la nature. Et il pense qu'à travers l'amour de la nature, il va récupérer son amour filial, en fait.
Alors, dans votre roman, il y a évidemment le thème de la chasse qui est omniprésent. Pourquoi avoir choisi ce thème et comment le traiter aujourd'hui ?
Alors, le thème de la chasse, donc encore une fois, il est venu de ce fait divers. Donc, c'était vraiment un fait divers, il y a 20 ans, complètement d'une banalité totale, d'une ligne ou deux, sur ces chasseurs qui étaient extrêmement agacés parce qu'on avait retardé l'ouverture de la chasse anticipée, et on les appelait des viandards. Alors, l'expression m'a beaucoup interpellée, c'est vraiment venu de ce mot, et j'étais vraiment très passionnée par l'idée de me mettre dans leur peau, de me dire que j'étais très loin de l'histoire de ces hommes, moi qui suis une femme citadine, et que j'allais essayer vraiment d'y rentrer complètement sans préjugés. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rencontré des chasseurs, je suis allée dans des armureries, j'ai lu des livres sur la chasse, des manuels de chasse, sur les armes, etc., en essayant, encore une fois, de ne porter aucun jugement.
Comment on s'émancipe de la signification du fusil et de ce qu'il dit de l'homme ?
Alors, je dois avouer que je me suis quand même assez peu posé la question. Moi, ça m'a intéressé d'un point de vue alors strictement technique, pour apprendre comment ça marchait, les calibres, etc. Après, j'ai aimé le vocabulaire, mais juste sur juste pour l'amour des mots, c'est-à-dire l'âme du fusil, c'est un terme technique. Je trouve que c'est un terme technique qui est très parlant. Et après, oui, je vois bien l'idée de cette symbolique sexuelle, mais alors pour être honnête, ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de prendre la chasse au premier degré complètement, c'est-à-dire d'être au ras du personnage et de son amour. Parce que l'amour du personnage n'est jamais, pour le coup, dans les armes, à part pour la transmission, mais il n'est jamais de tuer des animaux. C'est pas du tout là que lui trouve son plaisir. Son plaisir, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'amour de la nature et l'amour pour le chien, qui est alors un élément vraiment qui m'a surprise, mais qui est fondamental chez les chasseurs. C'est le lien qu'ils ont avec leur chien. Et donc ce lien-là, à la rigueur, je veux dire, il m'intéresse plus que la symbolique du fusil.
Qu'est-ce que c'est que ce Julien pour Philippe ?
Alors, ce Julien, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire c'est un objet d'attirance, évidemment. C'est pas un hasard si, quand il le découvre, il a d'abord cru que c'était une proie, que c'était un animal. Et puis, en fait, il va se retrouver complètement obsédé et fasciné par cet homme, par sa beauté, par le fait qu'il ait des traits plus ou moins féminins. Et puis, à la fois, c'est l'étranger, ça reste l'étranger pour lui. Et surtout pour son entourage, donc quelque chose qui fait peur, qui lui fait terriblement peur et qui va se mettre, puisque Philippe est dans une position toujours très attentif dans le roman, il est dans la position du voyeur, il va se mettre à l'observer en se racontant, lui, de façon explicite qu'il le fait parce que cet homme a l'air louche et qu'il a l'air bizarre et qu'il cache certainement quelque chose, ce qui est la vérité. Mais évidemment, il le fait aussi pour assouvir une pulsion scopique, un vrai désir, un désir érotique.
Vous allez le puiser où, votre intérêt pour les destins brisés ?
Je pense que je vais avoir du mal à répondre. C'est vraiment des choses, je pense, chez tous les auteurs, surtout les auteurs de noir, qui forcément, il y a des choses que je vais pouvoir verbaliser et puis d'autres qui me dépassent complètement. Mais en tout cas, tous les sujets, ils viennent toujours d'un élément qui résonne de façon hyper violente en moi ou dans mon histoire. Comme je pense tous les auteurs, on est une sorte de chambre d'écho, en fait, de choses comme... parler de destin brisé, comme dans mon livre Les corps brisés, ça venait d'un fait divers tragique. Là, c'est pareil, il y a vraiment quelque chose, ce qui me parle, moi, dans cette histoire, c'est cet amour quasiment, c'est cet amour impossible, mais c'est vraiment sur le langage, c'est vraiment quelque chose, ce qui me touche là-dedans, c'est un personnage qui n'arrive pas à exprimer, à verbaliser et à dire, et qui va réussir à parler des années plus tard. Donc, on en revient à votre question initiale. Il pourra dire des années plus tard, mais beaucoup trop tard. Et en fait, il y a une dimension tragique là-dedans, dans le fait qu'il arrive à parler, mais trop tard, qui aura coûté la vie à beaucoup de gens.
Elsa Marpeau, on écoute quoi maintenant comme musique ?
Alors, on écoute Murder Ballads. Alors, Murder Ballads, c'est vraiment... c'est un album que j'aime énormément. Justement, parce que... Alors, moi, je dois avouer une énorme lacune qui est... C'est vrai que j'écoute d'abord des paroles avant d'écouter de la musique. Donc, quand vous m'avez demandé... Quand vous m'avez demandé ça, je ne pense que à des chansons à texte, hein, toujours. Et là, ce sont des chansons donc qui sont chantées notamment par Nick Cave. C'est Nick Cave and the Bad Seeds. Et c'est à chaque fois une petite histoire. Et donc celle qu'on écoute, c'est une petite histoire qui commence de façon extrêmement belle. C'est une histoire d'amour près de l'eau. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait. Le narrateur, il va vouloir figer cette beauté et en figeant cette beauté, devoir tuer la femme qu'il aime. Donc là, vraiment, c'est pareil, une dimension tragique extrêmement forte dans cette histoire.
Elsa Marpeau, merci. Je rappelle le titre de votre dernier roman, c'est L'âme du fusil, c'est paru dans la collection La Noire chez Gallimard. On écoute maintenant Nick Cave and the Bad Seeds, Lovely Creature.
Merci Julien.
Lovely Creature de Nick Cave and the Bad Seeds. Oups. Un choix musical d'Elsa Marpeau, notre invitée de la quinzaine. Je passe maintenant la parole à Luc qui va pouvoir s'épancher sur sa toute première fois avec Dominique Manotti.
Oh mon petit Julien, on ne s'épanche pas sur Dominique Manotti. Deuxième chronique, toute première fois de la saison, et parité oblige, une femme à l'honneur, Dominique Manotti, et sa toute première fois à elle, c'est en 1995, et ses sombres sentiers dans lesquels elle installe un inspecteur, Théo d'Aquin, homosexuel, que l'on retrouvera dans six autres de ses romans. Non, non, Sombre Sentier n'est pas une déclinaison trash du Petit Poucet ou du Petit Chaperon Rouge. Le sentier en question ne circule pas dans la forêt obscure, c'est le sentier, tout simplement, le sentier à Paris, au lieu de la couture et non pas lieu de la haute couture, à la main-d'œuvre faite de sans-papiers, taillable et corvéable à merci, qui permet à l'homme et à la femme blanche, moderne, de se fringuer avec des frusques de marque, ce qui, ma foi, est bien consolant, ma bonne dame. Sombre Sentier se déroule dans les années 80, ça commence par un cadavre, celui d'une très jeune Asiatique de 12 ans, approximativement, retrouvée dans le sentier sous une pile de vêtements. Deux inspecteurs, Thomas et Santoni, se rendent sur les lieux, l'atelier clandestin de Bostic, un Yougoslave. Ils l'envoient en garde à vue, mais continuent à enquêter sur place. Ils font les gardes à vue, ils font les poubelles et trouvent deux sacs de plastique, de la poudre blanche. Mais c'est de l'héroïne. L'inspecteur d'Aquin entre en scène. Pendant la nuit qu'il passe avec Soleiman, son indic, animateur du mouvement des sans-papiers, il lui arrache des informations sur ce qu'il observe dans la rue. Soleiman lui indique une boutique de sandwich tenue par des Turcs, dont il pense qu'elle est un lieu de trafic de drogue. D'Aquin envoie ses deux inspecteurs, Attali et Romero, la surveiller. Pendant ce temps, nos deux inspecteurs, Thomas et Santoni, vous vous souvenez, des lourds de chez lourds, ces deux-là, enquêtent toujours sur la jeune Asiatique retrouvée morte. En plus de lourds, ils sont pervers. Leur enquête se déroulant probablement dans le milieu de la prostitution, ils n'hésitent pas à abuser des prostituées quand l'occasion se présente. Et voilà le tableau. Sombre Sentier, c'est une machine de guerre, une leçon d'écriture pour tout aspirant auteur. Et cela tient, je n'en ai aucun doute, à la profession originelle de Dominique Manotti, agrégée d'histoire et maîtresse de conférences, et à son engagement politique, militante à l'Union des étudiants communistes, UEC, pour les encore 68 arts vivants, et syndicale au sein de la CFDT. Si en toile de fond de son roman, elle s'autorise à raconter une grève des travailleurs clandestins, elle sait de quoi elle parle puisque, à ce mouvement, elle a participé dans les années 80. Mais si je parle de leçon, c'est que l'écriture, elle connaît. La recherche d'informations, la documentation, la construction logique, la cohérence et l'efficacité du propos, elle maîtrise. Surtout quand son champ de pratique professionnelle a été l'histoire économique. Alors, dans Sombre Sentier, tout ce qui s'y produit semble tellement vrai, et tellement vrai, qu'on y croit au point de penser à un moment qu'on est dans la lecture d'un reportage journalistique. Et pourtant, le scénario qu'elle élabore est loin d'être simple. Il y a la prostitution des mineurs, les conditions d'exploitation des sans-papiers, l'inévitable compromission de la police et des politiques, le trafic de drogue, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Mais cette complexité, plus qu'une supercherie romanesque, est justifiée parce qu'elle brosse un tableau complet de la face sombre d'une société et de toutes ses intrications. Sombre Sentier est un assez gros roman pour un polar, mais on ne voit pas le temps passer. Et pourtant, ce n'est pas un page-turner. Pas de fausse suspense, pas de ces événements improbables pour tenir le lecteur en haleine. Son écriture se suffit à elle-même, simple, sans effet, toujours au présent. Dominique Manotti sait qu'on ne triche pas avec son lecteur. C'est rassurant que des auteurs sachent écrire et, grâce à la fiction, essayent de nous faire comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et ces titres de romans, COP, pour parler du foot, nos fantastiques années fric, Lorraine Connection, mais ceci est une autre histoire.
Ouais, moi j'aime beaucoup Dominique Manotti et ce que tu dis est très juste, hein, à la fois sur son côté ultra documenté et son aspect romanesque. Et j'aime aussi bien ce qu'elle a écrit avec Dewa que ses histoires avec son personnage de flic qui est un peu plus ambigu, Théo d'Aquin, parce que je me suis rendu compte que sur la fin, quand il va vers Marseille, il est moins homosexuel que bisexuel, ce qui est plutôt ce qui donnait un autre attrait aussi au personnage. Pour l'heure, si la musique adoucit les meurtres, alors Toups est un criminel hors pair. Dites-nous si vous avez trouvé la musique et le titre de ce morceau qui va suivre.
Nous sommes en 1963.
un drôle de flic débarque sur les écrans. Il est mélomane. Comme son prédécesseur Sherlock Holmes, il joue du violon. Comme son illustre aîné, il entame une carrière diabolique. Mais au contraire du détective anglais, il est loin d'être infaillible. Il est français et il est marié. Dans ce premier volet, 8 autres suivront sur 3 décennies, il trouve en David Niven un cerveau surnommé le fantôme. David Niven entend faire main basse sur une pierre bien particulière possédée par Claudia Cardinal qu'il souhaite également posséder. On va retrouver tout ce beau monde sur les pistes de ski huppées de Cortina d'Ampezzo. Le film pourrait être un véritable film noir. Pourtant, son réalisateur a choisi la comédie. Il faut dire que c'est un spécialiste du genre, Blake Edwards. 2 ans plus tôt, il a adapté une nouvelle de Truman Capote avec Audrey Hepburn et George Peppard. Diamant sur canapé est assurément son chef-d'œuvre, et on trouve déjà le même compositeur à la baguette, Henry Mancini. D'ailleurs, ensemble, ils feront 27 films. Le policier, quant à lui, est le commissaire Clouseau. L'acteur qui l'incarne est connu pour avoir joué un triple rôle dans Le Docteur Follamour de Stanley Kubrick. C'est une immense star dans son pays, la Grande-Bretagne. À l'écran comme à la vie, c'est un clown triste. Il est sobrement génial quand il endosse ses rôles et qu'il joue de son côté transformiste, comme dans Un cadavre au dessert ou The Party. C'est bien entendu Peter Sellers. Quant au titre du morceau que vous écoutez, c'est à vous de nous le dire.
FM. It all started in a Hispanic.
Et oui, vous êtes sur Radio G au 101.5 FM et c'est maintenant à Linda et ses sueurs froides.
Ah, tu m'appelles plus Lindois.
Non, c'est une fois, ça va. Après, on prend des habitudes, tout ça. Non, c'est pas bien. On écoute tout d'abord un extrait du début de ce film et tu nous racontes ce qui se passe.
It all started in the Spanish-American War on the front line.
It's going to get worse.
Lord knows I can't take this anymore. We're all without ammunition. Jesse!
God damn it, let me go! God damn it, come on for me, Jesse Lee! They got a fucking Gallagher out there!
Ça... Ah. Alors ça, c'est... on est tout de suite dans le vif du sujet. Donc ce film de 1996 s'appelle Pose... Toups, tu vas m'aider.
Pussy.
Voilà. Ça, qui veut dire
la bande, le gang.
Voilà. Et aux États-Unis, ça veut dire aussi détachement, une petite troupe. Et Pose Cominatus, c'était un droit donné à un shérif d'enrôler des hommes pour l'aider au maintien de la paix et à arrêter des hors-la-loi. Et c'est passé donc dans le droit américain. Ce qui nous emmène assez loin du titre français qui est La Revanche de Jesse Lee. Donc un film de Mario Van Peebles. Alors, nous sommes donc à Cuba, 1898. Guerre hispano-américaine, on a bien entendu le côté guerre là. Nous sommes sur le front, les hommes du bataillon de Jesse Lee se font massacrer, pas assez d'hommes, pas assez d'armes, face à une mitrailleuse, vous avez bien entendu les de la mitrailleuse, d'une létalité redoutable. Jesse Lee va demander au colonel Graham, tu dis comme ça ? Graham, à l'abri, lui il est à l'abri à 30 mètres de là, hein, et on va lui demander le droit de se replier. Et le dit colonel, en train donc de se faire peinturlurer le portrait, fait sortir deux hommes mis au fer. Le premier a déserté sous prétexte que tuer un homme enfreindrait les sacrements de la Bible. Oh. Le deal est simple. Le bataillon ne battra en retraite que si et seulement si Jesse Lee accepte d'abattre ce soldat ridicule, cigare au bec. Tuer un homme de sang-froid versus laisser massacrer les siens. Ça, c'est du choix, les amis. Hein. Vous misez sur quoi ?
Oh, moi, je pense que comme il n'aime pas trop l'ordre, il va choisir de rien faire.
Eh bien, t'as presque raison. En fait, il tue le cigare. Et colère du colonel qui donc exécute le pauvre gars lui-même et démet aussi sec Jesse Lee de ses fonctions pour le remplacer par le deuxième prisonnier surnommé Little Jay. Mission pour eux, les hommes du bataillon honteux, pénétrer les troupes ennemies pour leur dérober leurs armes. Mission civile, soi-disant pour être moins remarqué. Mission suicide aussi un peu quand même. Mais c'est une proposition qu'ils ne peuvent pas refuser, parce que c'est un finot, notre colonel. Il demande ça à des hommes qui ont vu commuer leur condamnation à la peine capitale en engagement militaire à vie. Là aussi, c'est du choix. Donc, c'est à prendre ou à prendre, parce que retour maison égale pendaison. Donc, Jesse Lee... Non, c'est Little Jay qui fait connaissance de ces hommes. Et surprise, c'est pas que ces hommes sont tous noirs, mais c'est qu'il est le seul blanc. D'où sa blague... Mais qui a éteint la lumière ?
C'est chaud, hein ?
Ouais.
C'est très chaud.
C'est
hein.
Accueilli à peu près comme ça dans le film aussi. Alors, il passe vite à autre chose. Et en fait, il s'avère qu'il est assez nul en meneur d'hommes.
J'ai une question, c'était combien de temps après Roger Rabbit ? Parce que qui a éteint la lumière, c'est dans Roger Rabbit.
Oui, mais il n'y a pas que des noirs autour,
alors,
là.
Si tu vas là-dedans, moi, je reviens à Pierre Dac, dans Los Samuel, qui disait dans ses petites annonces, cherche veilleur de nuit, noir, s'abstenir.
D'accord, ok. Alors non, on va essayer de revenir en 1898, si vous voulez bien.
Tu peux reprendre le fil, s'il te plaît.
Ouais, je vais essayer. Donc Jesse Lee reprend les manettes, justement. Non. Et ils parviennent à accomplir leur mission, sauf que c'est un trésor qu'ils trouvent à la place des armes. Et ça pue l'embrouille. Ils auront beau essayer de se faire la belle, le colonel et ses hommes les débusquent, sans autre intention que de les liquider pour récupérer le magot. D'ailleurs, des noirs et un blanc civil morts au milieu de nulle part, on s'en fout. Évidemment, c'est pas ça qui se produit, puisqu'on n'est qu'à 10 minutes du début du film. Et quoi de mieux que d'avoir un ennemi commun pour souder un groupe ? Hein, c'est la base. Donc de retour au pays, se mêlera à l'intrigue une histoire de... C'est dans le titre.
La vengeance.
De revanche, oui, sur fond de Kekex Clan. Vous avez remarqué que je fais un petit peu ma maligne, là. Je reprends aujourd'hui la saison. Je fais une chronique.
Ouais. On voit bien que tu te la pètes un peu.
Ah, je me la pète, hein.
C'est ça,
western.
La pète, en fait.
Western. Ouais. Moi qui suis. Enfin, toi, c'est un peu ma réputation. Je n'aime pas les westerns. Et je fais ma première chronique sur un western. Comme quoi, Julien, il faut désespérer de rien, quand même.
On aura bientôt une chronique sur une comédie musicale. Je suis assez.
Ah non, mais ça, je peux faire. Alors, bon, ce film. Pour autant, est classé en tant que anti-western, allant ça que les personnages principaux sont majoritairement noirs et indiens. Nous sommes d'accord, ça nous change. À ce propos, vous savez qu'un cow-boy sur trois était noir.
Dans la réalité.
Dans la réalité, non pas au cinéma.
Un shérif.
Un cow-boy.
Cow-boy.
Ah, oui.
Moi, je pensais qu'il y en avait plus que ça qui étaient ivres morts, mais sinon. Bon
d'accord. C'est
pitié. Tu es terrifiant.
Ouais, mais par contre, dans le film, là, on a bien les coups de feu, les hommes qui meurent tout plein, les chevaux qui tombent, la belle amoureuse du beau, et que le beau devra aller délivrer la belle des flammes et des méchants. Je pense qu'on a toute la panoplie. D'ailleurs, c'est peut-être bien un petit peu pour ça que mon attention s'est légèrement relâchée quand même au bout d'un moment. Hein. Et puis, c'est quand même aussi très. Américain, hein, dans le sens péjoratif du terme, hein, bien entendu. Je trouve ça un peu appuyé. Je vous fais un gros plan sur un plan au cas où on n'aurait pas vu. Bon, bref. Pour moi, ça ne tient pas tout à fait ses promesses par rapport au début du film, qui est vraiment, vraiment enthousiasmant. C'est dommage. Par contre, tous les comédiens ils savent ce que c'est jouer. Mario Van Peebles aussi, mais le joli ténébreux thème et variation, passé 1h30, c'est bon, voilà. Et puis, les gars, moi je dis, pensez à couper au montage. Hein, petit 20 minutes en moins, ça vous redonne du souffle à un film. Hein.
Mais il restait du film après.
Ah, 1h50. Hein. Ah. Et surtout qu'il y a, c'est dommage parce qu'il a le mérite de croquer des situations vraiment rarement données à voir. Je fais pas allusion à la condition des femmes, hein, parce que ici c'est une profusion de fesses et de nichons. Non, je pense plutôt...
Avec un Z.
Oui, deux. Et plutôt à l'esclavage des Chinois, par exemple. Il fait allusion à un moment donné pour finir la construction du chemin de fer. Ou, c'est plus le droit d'esclavager les Noirs, alors il fallait bien en trouver d'autres. L'exécution des Indiens qui refusaient la notion de privatisation de la terre. Enfin, des choses comme ça. Conclusion, c'est un film qui vaut le coup. Enfin, pour ceux qui aiment les westerns, quoi.
Pardon. Oui, tu nous rappelles le titre de ce film ?
La revanche de Jesse Lee.
Ouais, moi ça m'a quand même donné envie, alors j'irai zioter un petit peu ça. C'est maintenant l'heure de notre débat cinéma, on reste dans le cinéma. On a choisi cette fois de façon collégiale Cure de Kiyoshi Kurosawa. Luc, après l'extrait que tu nous envoies, on a ton pitch.
最後には青ひげを殺してしまうんです。
第一発見者を向こうの部屋で待たせてるんです。ホテルの清掃係ですが、お会いになりますか？
いい。被害者は売春婦です。いつかこういう目に遭うんだよな。
高場です。
所轄署の安川です。
なんか犯人の遺留品が。
はい。
Eh bien, pour présenter ce film, déjà la bande, cet extrait est extraordinaire. L'inspecteur Takabe, Koji Yakusho, qui joue le rôle, enquête sur des meurtres mystérieux qui se ressemblent tous. Le meurtrier trace une croix sur la poitrine de ses victimes. Mais paradoxalement, la police retrouve tous les meurtriers qui tous tiennent des propos incohérents. Cependant, un individu est arrêté, Mamiya, qui est joué par Masato Akihara, parce que retrouvé plusieurs fois dans l'environnement des meurtres. Un suspect étrange, il est amnésique au cours de l'enquête. Takabe découvre qu'il est étudiant en psychologie et qu'il a étudié le mesmérisme, science qui tient son nom du savant français Mesmer, à ne pas confondre avec notre ex-premier ministre sous Georges Pompidou, ce que ne risque pas puisque des jeunes générations ne connaissent même pas son nom. Qui découvrit l'hypnose. Et d'un autre côté, la femme de Takabe est fragile mentalement. Elle est suivie par un psychiatre qui lui fait lire Barbe Bleue et elle ne peut vivre sans que le séchoir à linge tourne à vide. Kiyoshi Kurosawa, qui n'a pas de lien de parenté avec l'immense Akira Kurosawa, va pendant tout le film jouer sur les ambiguïtés et utiliser la méthode de la caméra subjective pour susciter un sentiment de malaise permanent. Julien, je sais, avec ton savoir encyclopédique, tu nous diras tout sur Kiyoshi Kurosawa.
Tout à fait.
Mais il me semble important d'ajouter dans cette présentation que tout est rigoureusement réfléchi dans ce film. Bien sûr, le scénario diablement tordu, mais aussi la mise en scène au cordeau, les décors vides, sales, dans une lumière blafarde, composée comme des peintures hyper réalistes de Peter Klaassen. Le recours à des bruits plus ou moins perceptibles, jusqu'au silence total, accroît ce sentiment d'oppression. On a l'impression d'être englué dans cette histoire et on ne serait pas surpris que l'inspecteur Takabe sombre lui aussi dans la folie. Il n'y a pas une seconde de relâchement. Le dernier plan glaçant est là pour en témoigner.
Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film, Linda?
Je ne veux pas être la première.
Tu ne veux pas être la première? Toups, il t'a inspiré quoi, ce film? Tu veux pas être le second?
Il serait le premier, en l'occurrence.
S'il est le second, il n'y a pas de troisième.
S'il y a un second, oui. Eh bien, il m'a fait penser à plein de choses, ce film. Alors, il faut que j'avoue que je ne l'ai pas regardé en entier, parce que j'ai été déçu. J'ai eu, à un moment donné, la sensation de perdre mon temps à le regarder. Je l'ai dit tout doucement parce que bon, c'est quand même.
Oui.
C'est quand même... alors que c'est un
lâche,
film.
Lâche cette pierre, Luc.
c'est un film qui m'a laissé quand même une impression très très forte. Et curieusement, qui m'a fait penser à quelque chose qu'on vit aujourd'hui, un truc qui s'appelle l'ingénierie sociale. Ou à cette fameuse expérience de ce psychiatre dont j'oublie systématiquement le nom. Qui arrive à faire que des gens tout à fait sains d'esprit qui ne voudraient absolument pas de mal à leurs voisins, si, au bout d'un moment, si on arrive à les en persuader, à les persuader du bien fondé de le faire, eh bien, oui, ils mettront à mort leurs voisins. Mais ce qui m'a un peu... Alors ça, j'ai trouvé ça très fort. J'ai trouvé très fort aussi le côté Seven à la japonaise. Sauf qu'il y a beaucoup plus que cette victime et qu'elles ne sont pas tuées par un psychopathe mais par des psychopathes à foison.
Moi, il ne faut pas trop dire.
Non, j'en dis pas plus que ça.
Surtout que ce n'est pas des psychopathes.
Oui, c'est
en plus,
ce
n'est pas des psychopathes, c'est des gens qui...
On voit bien que tu n'as pas vu le film jusqu'au bout.
Non, mais on voit bien surtout que...
Non, mais ça, il l'a vu, hein, je peux témoigner.
Je l'ai bien dit. Des gens qui arrivent à être persuadés qu'il faut mettre à mort son voisin parce que c'est la seule chose à faire. Pour moi, Kurosawa, ça faisait d'abord penser à, évidemment, Akira, mais... Akira Kurosawa me faisait penser à Japon et à une marque de fabrique avec un ancrage dans le Japon. Ce qui m'a déçu, c'est aussi cette sensation, alors là je parle sous votre contrôle vu que je n'ai pas regardé en entier, que ça aurait pu être un film fait n'importe où.
Ouais, on va pas être d'accord. Malheureusement, on n'a pas 4 heures pour développer là-dessus. Mmh. Alors, rapidement, il y a un univers qui est très japonais. Alors, moi, ça fait penser à Ruki Murakami, ce mélange entre onirisme, fantastique, réalité. Évidemment, je comprends ce que tu veux dire par rapport au désenchantement sur la plage, un truc déshumanisé. Ça aurait pu se passer au Havre, hein, la plage du Japon. Là, elle a rien envie à la plage du Havre quand on voit cet homme qui
Sauf
marche.
Que sur la plage du Havre, il y a des galets.
Oui, il y a des galets. Soit.
C'est une peinture quand même d'un univers très glauque. Moi, j'ai trouvé au contraire qui saisissait l'industrialisation et puis le côté gens empilés qui peuvent pas respirer avec du béton, c'est moche partout. Enfin, tout ce côté-là, je trouvais ça qui est très très bien croqué. Et le au niveau des décors, je trouvais ça. On n'a pas l'impression que ce soit des décors. Oui. C'est ça qui est magnifique. Enfin, moi, j'ai vraiment accroché là-dessus.
Oui,
Par contraste, peut-être avec d'autres films que j'ai vus.
Et surtout,
juste avant.
Il y a chez lui, et lui qui va être peut-être d'accord avec moi, le sens du détail et le sens de la répétition des gestes. Parce que ça, c'est aussi à la fois très japonais, très maniaque. Et je pense notamment à l'inspecteur quand il rentre chez lui et que systématiquement il va éteindre la machine à laver qui tourne dans le vide parce que sa femme a quelque chose. Alors c'est peut-être là justement qu'il y a un petit point d'achoppement sur ce que tu dis. On fait forcément le parallèle entre ce qui vit lui avec sa femme et ce qu'il vit dans son enquête. Et finalement, on est un peu déçu peut-être parce que c'est deux pistes qui se rejoignent pas tout à fait ou pas entièrement. Luc,
Effectivement, d'une part, elles se rejoignent pas, encore qu'elles sont parallèles. Mais surtout que Kurosawa, à un moment donné, nous emmène sur une piste qui serait celle que l'inspecteur Takabe, lui aussi, va tomber. Enfin, il y a des plans très longs, très lents, où on se demande si le personnage il est pas en train de dérailler. Et comme j'ai pas envie de divulgâcher, cette hypothèse-là est vraiment intéressante parce que quand on va jusqu'au bout du film, jusqu'à la dernière seconde du film, il y a des portes qui s'ouvrent soudain et on se dit mais dans quel film j'étais au final ? C'est un film moi que j'ai trouvé mais magistral. Enfin. C'est même pas magistral, quoi. C'est brillantissime, une maîtrise du cinéma, comme on en a vu rarement. Enfin, pour moi, c'est vraiment une claque, quoi. C'est un film que j'avais pas vu à sa sortie et que je trouve éblouissant.
Linda.
Ah oui, non, mais puis après, il y a le cœur des. On est plus ou moins touché, par exemple, par rapport au type d'intrigue. Et ça, c'est complètement subjectif. Par contre, moi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est en ayant une petite imprégnation aussi de la culture japonaise, donc ça résonne doublement, mais une très grande justesse de la direction de jeu.
Oui, oui.
Voilà,
oui,
ça en rajoute pas, quoi, pour le coup. Il vient nous chercher et en même temps, il sait vraiment nous perdre, nous reprendre régulièrement. On est où ? Ah oui, tiens, on raccroche, etc. Et c'est toujours subtil, c'est jamais, justement, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, le gros plan sur le truc, c'est bon, vous avez bien compris, c'est jamais comme ça. Ça, c'est vraiment très beau, quoi.
Oui.
Pour moi, c'est un peu un film sur les obsessions, sur la vacuité. Il y a plein de sur l'absence de sens aussi quelque part. On voit.
Mais c'est terrible. D'ailleurs, lui aussi, il le dit. En fait, il pète les. Enfin, sa vie est. Il est à côté. Enfin, émotionnellement, il est creux. Il s'interdit tout. Enfin, c'est des vies parallèles et on a l'impression que c'est tous qui sont dans leur petit moulin comme les hamsters là. En parallèle, quoi. C'est assez glaçant. Hein.
Ah ben, moi, je trouve que c'est un film terrifiant de puissance. Il y a une densité dans ce film qui est assez long. Il y a une densité. Et là, il n'y a pas 20 minutes de trop dans ce film.
Ah non.
Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut parce qu'il y a de la lenteur, il y a tout. Pour moi, si je devais synthétiser, moi, je dirais que Cure est au cinéma ce que The Cure est à la musique. Blafard, inquiétant et en même temps terriblement arty et totalement jouissif.
Aïe, qu'est-ce que je peux rajouter après ça? Moi, il m'a fait penser à un autre film, alors par capillarité et puis par.
Pas de capillarité avec moi.
Mais si, depuis qu'il se baigne nu dans les lacs.
Oui, c'est ça. quelqu'un se rappelle de ce film qui s'appelle La Grande Menace avec Lino Ventura, The Medusa Touch? où c'est un mec qui est dans le coma et qui peut avoir une incidence sur le monde qui l'entoure. Et lui, Ventura, c'est un commissaire qui enquête sur ça. Et jusqu'à la fin, d'ailleurs, il y a à peu près ce même truc.
Ça serait intéressant de faire le parallèle.
Ouais. Voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Et puis, il y a d'autres films. Alors, je ne les ai pas retrouvés. Un film tchèque, notamment, sur la frontière entre le réel et l'irréel. Enfin, le réel et le fantasmé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est un film très esthétique, c'est un film très bien mené. Ouais. Il n'enthousiasme pas forcément tout le monde. Toops avait a des quelques récriminations justifiées.
Oui, enfin, je les justifie, mais en même temps, je cherche pas à vendre mon manque d'appétit. Ou peut-être aussi, je l'ai peut-être pas vu dans les meilleures conditions.
Oui, et ça, après, il y a aussi ce que quand je disais de perception d'intérêt pour le. Là où j'ai pu, moi, peut-être relâcher un peu, c'est le côté purement enquête. Bon, enquête sur du meurtre. Au bout d'un moment, moi, j'avoue que c'est pas un truc qui me tient. Mais voilà, ça, c'est hyper perso. Je vais pas mettre de jugement sur le film par rapport à ça, quoi.
Non, mais on conclura là-dessus. On dira simplement que c'est un joli éloge du vide dans tous les sens du terme, que c'est fait avec lenteur, précision et talent. Voilà, donc c'était Cure de Kurosawa, son prénom
Kiyoshi.
C'est chez Carlotta, c'est disponible en Blu-ray dans un nouveau master. Il y a quelques bonus intéressants. Globalement, on vous le recommande. C'est déjà l'heure de se quitter. Alors, Luc, on parle de quoi demain dans Entre les Pages?
Demain, on parle de quelque chose qu'on aime bien ici, puisqu'on aime bien le noir, on aime bien le mauvais genre, et on parle d'un fanzine, La Tête en Noir, que je suppose tu connais, Julien. Et un fanzine aussi anachronique que La Tête en Noir mérite bien qu'on lui consacre une émission.
Eh bien, merci pour ce fanzine. Je signale au passage que l'émission Sous les jupes des films de demain matin s'arrête sur Les Feux de l'Enfer d'Andrew McLaglen avec John Wayne, Vera Miles et Catherine Ross qui joue dans Le Lauréat, un film qui ressort chez Elephant. On parlera après de Marché de Brut d'Anthony Mann chez Rimini. Demain à 19h, ne manquez pas Caméra Subjective avec co-animé par Annie et Margot. Je n'ai pas leur sommaire. La semaine prochaine,
mais ce sera bien.
Ce sera bien, assurément. La semaine prochaine, on laisse la place à nos amis imaginaires. À dans 15 jours, les amis, on remercie encore Elsa Marpeau. Son roman L'âme du fusil, c'est chez Gallimard. Rendez-vous sur notre page Facebook et sur le site de Radio G. On se quitte en musique avec un dernier choix musical de Jean-François. On reste en Allemagne avec cet extrait du premier album de Renard. Nouvelle identité de Markus Reinhardt, plus connu comme étant la moitié du duo Synthpop, me dit-il, Wolfsheim. À l'écoute de ce faux album solo bourré de collaboration, on sait qui était la meilleure moitié. Bye bye.
Bye bye, salut. Au revoir.
Adios.
101.5 FM.